Le texte de la Bible en hébreu dit, et il lui donna la dîme de tout. Qui donna la dîme à qui? C'est pas clair du tout. Et dans le judaïsme, il y a deux traditions. C'est le roi de Sodome. Melchisédek qui donne la dîme à Abraham. D'autres, c'est le roi de Sodome qui la donne. D'autres encore, c'est Abraham qui donna à Melchisédek la dîme de tout. Le denier du culte. Hein.
C'est donc très important.
Ah, bien sûr, texte très important. Il est venu, ce prêtre païen est venu bénir Abraham, il faut quand même lui donner son centième, non? Normal, hein? Et lui donna la dîme. Et de nouveau, l'institution de la dîme beaucoup postérieure, mais on la met ici. Le plus possible au début, tout au début, pour montrer le germe. Ça vient de loin. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes, hein, les prisonniers, le butin en personnel. Donne-moi les personnes et prends les biens pour toi. Mais Abraham répondit au roi de Sodome, donc on va faire un partage. Ce partage, hein, à moi les personnes, surtout qu'on m'en a tué quelques-uns, donc je vais récupérer quand même du personnel, de la main-d'œuvre, et prends les biens pour toi. Mais Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main devant le Seigneur, le Dieu Très-Haut. Ah, ici c'est le Seigneur, Yahvé, le Dieu Très-Haut. Il a déjà fait une identification. Puisqu'il n'y en a qu'un, on ne va pas se bagarrer. Hein. Je lève la main devant le Seigneur, le Dieu Très-Haut, qui créa ciel et terre. Il reprend exactement l'expression de Melchisédek. Ni un fil, ni une courroie de sandales. Je ne suis pas digne de lier la courroie de sandales. Ni un fil, ni une courroie de sandales, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Et tu ne pourras pas dire, j'ai enrichi Abraham. Désintéressé, le gars, hein? Non seulement il est généreux à propos de Lot, généreux pour aller le chercher des mains des rois qui l'ont pris, mais il ne veut rien prendre comme butin. Tu ne pourras pas dire, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. C'est la vallée du rien, hein? La vallée du chave. Il y a un jeu de mots là-dedans. Rien pour moi, seulement ce que mes serviteurs ont mangé et la part des hommes qui sont venus avec moi. Ah oui, eux, bon, ils ont fait la razzia, bien sûr, il fallait bien qu'ils mangent, les gens. Bon, ça, on ne va pas te le rendre. Et la part des hommes qui sont venus avec moi. Eshkol, Aner et Mamré. Vous voyez que Mamré est à la fois un homme et un lieu. C'est presque toujours comme ça. Eux prendront leur part. Étrange histoire, hein? Étrange histoire. Voilà donc que le roi de Sodome fait venir un prêtre païen, que ce prêtre païen, hein, qui s'appelle Mon Dieu et Justice, est roi de Salem, qui est devenu Jérusalem, et qui apporte du pain et du vin. On ne fait généralement pas de sacrifice avec du pain et du vin. Est-ce qu'il les apporte pour faire un sacrifice? Certains le pensent, parce qu'on dit qu'il était prêtre. D'autres disent, ben, il vient régaler, tiens. Hein? Il vient faire un repas avec tous ceux qui ont travaillé et qui ont combattu. Mais enfin, il vient quand même prononcer une bénédiction. C'est la chose la plus importante. Et la bénédiction par le Dieu très haut, elle cloque tout à fait avec la bénédiction de Dieu. Il reconnaît que la victoire vient de Dieu. Le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ce monsieur Melchisédek a une vie curieuse. Bon, il intervient une seule fois à cet endroit-là. Et puis, on le voit revenir au psaume 110. Psaume 110, où l'on parle du Messie. Vous savez que le roi était au fond le président du sacerdoce dans le temple de Jérusalem. Quand il était là, c'était lui qui officiait, à l'époque de David et de Salomon. Et donc, on a imaginé que le Messie serait prêtre. Ah oui, mais à l'époque de David et de Salomon, quand on compose les psaumes, le sacerdoce est héréditaire. Hein? On est prêtre de père en fils. Il suffit d'être de la tribu de Lévi. Entre parenthèses, hein, la tribu de Lévi, c'était la tribu des bagarreurs. Hein. Ils bagarraient toujours contre la tribu voisine, celle de Siméon. Et alors, puisqu'ils avaient l'instinct meurtrier, on en a fait des bouchers. Et ils pouvaient passer leur violence sur les animaux à immoler au temple de Jérusalem. Ils n'avaient pas de territoire, mais ils tuaient les bêtes des autres. Un office, ils travaillaient pour les autres. Je vous lis ce psaume 110, qui n'est pas évident du tout. Oracle du Seigneur, à mon Seigneur. Le Seigneur Yahvé, à mon Seigneur. C'est David qui est censé composer ce psaume. C'est un psaume de David. Oracle du Seigneur, à mon Seigneur. Siège à ma droite. Tes ennemis, j'en ferai ton marchepied. Tiens, c'est lui qui a mis tes ennemis entre tes mains. Tes ennemis, je ferai ton marchepied. Et il y a de la suite dans les idées, hein. Ton sceptre de puissance, le Seigneur l'étendra de Sion. Domine au cœur de l'ennemi. C'est exactement ce qu'a fait Abraham. À toi le principat, la royauté, si vous voulez, au jour de ta naissance, sur les monts sacrés. C'est encore un petit peu idolâtre, hein, ce machin-là. Dès le sein, dès l'aurore de ta jeunesse. Donc tu es roi dès ton berceau. Le Seigneur l'a juré et ne s'en dédira point. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchizedek. Ah, voilà qui revient. À ta droite, le Seigneur. Il brise les rois au jour de sa colère. Arbitre des nations, il entasse les cadavres. Il brise les têtes au loin sur la terre. Au torrent, il voit en chemin. C'est pourquoi il redresse la tête. Curieux psaume, hein? De quoi ça parle, cette affaire-là? Vous voyez bien qu'il s'agit de victoire. Et que ce qui joue dans ce psaume, c'est l'histoire de la victoire d'Abraham et du roi de Sodome, etc. Enfin, tous ces gens qui se sont bagarrés dans la plaine du Jourdain. Oracle du Seigneur Yahvé à mon Seigneur Messie. Donc c'est David qui voit, hein, en vision, Dieu parler à son futur arrière-petit-fils qui sera le Messie, c'est-à-dire quelqu'un de sa descendance. Le roi siège à Jérusalem et il regarde évidemment comme on regarde vers l'Orient, hein, pour s'orienter, comme nous disons. Donc il regarde vers l'Orient et à sa droite, qu'est-ce qu'il y a? Le temple. À sa droite, au sud de Jérusalem. Quand vous regardez à droite, vous êtes à la place du palais de David ou de Salomon, à droite vous avez la colline du temple. Et le temple. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite. Tes ennemis, j'en ferai ton marchepied. Oui. Il y a à la fois des choses géographiques, il y a des réminiscences de l'histoire d'Abraham, et puis ton sceptre de puissance, le Seigneur l'étendra de Sion. Bon, là, c'est évidemment. David, Salomon et puis le successeur, hein, la dynastie de David, domine au cœur de l'ennemi, tu seras roi sur tous les ennemis aux alentours, mais toi tu auras à toi le principat au jour de ta naissance, c'est-à-dire que c'est héréditaire, hein, depuis le jour de ta naissance tu es roi, enfin, tu es prêtre, destiné à devenir roi.
C'est pas au jour de l'intronisation royale?
Si. Si, jour de ta naissance c'est l'un et c'est l'autre, mais ici il semble quand même on a voulu souligner la continuité dynastique. Dès le sein et l'aurore de ta jeunesse. Et puis alors, au milieu, ce verset, le Seigneur l'a juré et ne s'en dédira point, tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Passons dans l'ordre de Lévi. Pourquoi selon l'ordre de Melchisédek? Justement, on ne voit pas d'où il sort, ce gars-là. C'est un prêtre païen, mais il n'est pas dans la ligne de Lévi. Il vient d'ailleurs. Alors, vous allez voir comment on va interpréter cela un peu plus tard, mais une chose à la fois. À ta droite, c'est le Seigneur, le temple. Il brise les rois au jour de sa colère. Arbitre des nations, il entasse les cadavres, il brise les têtes au loin sur la terre. Ça, c'est pour la légitimation de David, Salomon et de la dynastie davidique, bien entendu. Au torrent, il boit en chemin. C'est pourquoi il redresse la tête. La note de la Bible de Jérusalem dit ceci. Au torrent, il boit en chemin. Donc, au moment où on fait route, on boit en passant au chemin, comme les soldats de Gédéon. Hein? Le Messie boit au torrent des épreuves, ou au torrent des grâces divines, ou encore il est comme le guerrier à la poursuite de ses ennemis, et qui ne s'arrête qu'un instant pour boire au torrent. C'est probablement de là que vient l'image. Hein? Qui ne s'arrête qu'un instant pour boire au torrent. Et c'est pourquoi il redresse la tête. On applique, c'est dans la tradition chrétienne, ce texte au Christ souffrant et glorifié. Il redresse la tête. Il était mort, il incline la tête sur la croix et il la redresse dans la résurrection. Et comment ça travaille? Le psaume travaille avec des réminiscences. Ici, on voit bien le travail de l'histoire. On travaille avec des réminiscences de l'histoire d'Abraham. On y voit l'histoire à l'époque de David et de Salomon. Et on a une perspective, celle de la découverte du Messie, qui vient au loin, mais qui est dans la dynastie David. Bon.
Et ça s'accomplit en Jésus.
Et là, on voit déjà l'accomplissement en Jésus. Jésus étant le Messie, on va lui appliquer, hein, tous les psaumes parlent de Jésus, après la tradition chrétienne. Mais il y a un autre monsieur, dont on ne sait pas quel est l'auteur exact, hein, c'est-à-dire l'Épître aux Hébreux, ouais, qui va reprendre le thème, et qui va lui donner une destinée telle que Melchisédek va revenir jusque dans notre célébration liturgique. Ah ouais. Et comment ça travaille, hein? Bon, ça vient en plusieurs endroits, hein? On parle de Melchisédek, vous avez au début de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, au verset 13, hein? On reprend exactement le texte du psaume, premier chapitre, voilà ce qu'on en dit, mais c'est un peu comme un titre. Voici, comme un manteau tu les releras, comme un vêtement ils seront changés, mais toi tu es le même et tes années ne s'achèveront point. Et auquel des anges a-t-il dit jamais « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je place tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds » Première allusion au psaume 110. Puis alors, vous avez au chapitre 10, lorsqu'on vous parle de la foi, vous avez ceci. Tant que tout prêtre se tient debout chaque jour, officiant et offrant maintes fois les mêmes sacrifices, qui sont absolument impuissants à enlever les péchés, lui, au contraire, il s'agit de Jésus, ayant offert pour les péchés un unique sacrifice, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, qui n'a évidemment ni droite ni gauche. Hein, une manière de dire, celui qui s'assied à la droite du roi, c'est celui qui a tous les honneurs royaux. Qui est sur le même pied que lui, sur le même siège que lui, disons. Attendant désormais que ses ennemis soient placés comme un escabeau sous ses pieds. Vous voyez comment il rejoue de nouveau avec le psaume 110. Car par une oblation unique, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il sanctifie. Or, l'Esprit Saint lui aussi l'atteste, car après avoir déclaré telle est l'alliance que je contracterai avec eux après ces jours-là, hein, je mettrai à loi et au fond de leur être, et je l'écrirai sur leur cœur, et il prend le texte de Jérémie, au chapitre 31. Et puis alors, il nous dit, au chapitre 5, allez-y, posez-vous. Tout grand prêtre, en effet, début du chapitre 5, pris d'entre les hommes, est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. Il peut ressentir de la commisération pour les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même également enveloppé de faiblesse, et qu'à cause d'elle, il doit offrir pour lui-même des sacrifices pour le péché. Hein, il n'est pas sans péché, le grand prêtre, comme il le fait pour le peuple. Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur. On y est appelé par Dieu, absolument comme Aaron. Ça, c'est le sacerdoce lévitique. Hein? Aaron est un chef de file. Mais, de toute façon, on ne choisit pas d'être prêtre, ça s'est donné par le fait que on est dans la
lignée.
La tribu de Lévi. De même, maintenant il va passer au Christ, ce n'est pas le Christ qui s'est attribué à soi-même la gloire de devenir grand prêtre, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Ça c'est le psaume 2. Le psaume 2 et le psaume 110 jouent souvent ensemble. Comme il dit encore ailleurs, 110, tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek. Qu'est-ce que c'est que l'ordre de Melchisédek? Ah, selon la tradition, hein, on ne dit pas d'où il vient. Généralement, quand on fait venir quelqu'un dans la Bible, on dit il est le fils de qui? On peut le situer comme ça. Fils de son père ou de sa mère. Ah oui, on ne dit rien du tout. Donc, on en a fait, dans la tradition juive, un homme sans génération. Il n'a ni père ni mère. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien qu'il a un père ou une mère, bien sûr. Ça veut dire que s'il n'a ni père ni mère cité, ça veut dire que ce qui est important, ce n'est pas l'ordre de la génération. Dans la tribu de Lévi, on est prêtre de père en fils. Prêtre selon l'ordre de Melchisédek, c'est par disposition de Dieu. Disposition absolument gratuite. Ce n'est pas parce qu'on appartient à telle tribu que l'on est prêtre. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek, ça veut dire une disposition tout à fait nouvelle de la part de Dieu. Et c'est en l'honneur de cette disposition nouvelle que le Christ est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Alors que, comme le dit la suite de l'Épître aux Hébreux, il n'était pas même prêtre. Jésus n'est pas prêtre. Il n'est pas de la tribu de Lévi. Et sur le plan de Lévi ou du sacerdoce lévitique, il n'a aucun droit. Il n'est même pas prêtre. Mais il est devenu grand prêtre par disposition de Dieu. Et il offre du pain et du vin, figurez-vous. C'est assez pour le faire intervenir, Melchisédek, dans notre liturgie. Prêtre selon l'ordre de Melchisédek.
Mais ça, d'un jésuite aussi, n'est-ce pas? La famille Montbrus a été fondée par un certain docteur Fanon.
Un docteur comment?
Le père Lemaire, avec un médecin, c'est plus son nom, mais le médecin, il avait, des fois, il râlait, j'en fous une bonne, ce père Lemaire, lui qui n'est ni père ni mère,
oui,
il est prêché pour les familles nombreuses.
Oui, oui. Ici, il n'a ni père ni mère. Non pas, il n'est ni père ni mère. Il n'a ni père ni mère. Mais voyez comment un thème, ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment un thème fonctionne à travers l'histoire. Alors, ce n'est plus celui qui vient dans le canon de la messe, ce n'est plus le personnage tel qu'il est raconté dans l'histoire d'Abraham, c'est la figure.
Selon l'Épître aux Hébreux.
Selon l'Épître aux Hébreux. Et c'est ce texte qui a été repris. Le prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek.
Et l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire des chaises rabbiniques.
Tout à fait. Mais oui, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, mais elle n'existerait pas sans le psaume 110. C'est parce que le psaume 110 l'a repris comme figure du Messie que l'Épître aux Hébreux le reprend comme réalisation par le Messie.
Et voyez, comme il n'a ni père ni mère, mais qui s'éteint selon l'épopée, donc il vient du ciel.
Donc, il vient
donc du ciel. Jésus vient du ciel et le Fils.
Jésus, c'est par disposition gratuite de Dieu. Il n'est pas dans la ligne du sacerdoce lévitique.
On a piété à l'institution.
C'est ça. C'est un sacerdoce tout à fait nouveau. Et il est le seul prêtre, finalement.
Et alors, il ergote plus loin parce qu'il dit qu'Abraham a donné la dîme. Or, Lévi n'était pas né dans sa descendance. Donc, le sacerdoce de Melchizedek est supérieur à l'autre.
Est supérieur à l'autre. Et comment joue la figure ? C'est amusant de voir, il y a encore d'autres choses sur Melchizedek, comme Pierre vient de le dire, mais ce que j'aime simplement de vous montrer, c'est comment cette Bible part d'un tout petit point de l'histoire et alors va travailler sur le sens de la figure. Alors, nous voulons toujours ramener cela à une historicité, alors que la figure ouvre l'historicité à une réalité qui finalement trouve son sens définitif en Jésus.
Évidemment, ce qui a joué très fort, c'est le fait qu'il était et du pain et du vin aussi, évidemment.
Ah, évidemment. Hein, sans le pain et le vin, ça ne serait pas arrivé non plus. Mais il apporte du pain et du vin, et ce qui frappe évidemment, quand on veut faire un sacrifice, on immole un animal. Or ici, il ne s'agit pas d'animal. Et alors, quand il montre l'efficacité, la supériorité du Christ, alors il reprend toutes ces figures. Considérez donc comme il est grand. Celui à qui Abraham donna aussi la dîme du meilleur butin. Lui, le patriarche. Et à la vérité, ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont ordre, selon la loi, de lever la dîme sur le peuple. Oui. On vous ramène à la dîme. C'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant eux aussi sortis des reins d'Abraham. On en est venu. Mais celui qui n'était pas de leur lignée a levé la dîme sur Abraham et il a béni le détenteur des promesses. Or, sans aucun doute, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ah. De plus, ici, ce sont des hommes mortels qui perçoivent les dîmes. Mais là, c'est celui dont on atteste qu'il vit, c'est-à-dire le Christ. Enfin, c'est pour ainsi dire Lévi lui-même, lui qui perçoit la dîme, qui se trouve l'avoir payée en la personne d'Abraham. Oui, Lévi était déjà dans le sein d'Abraham. Il était encore dans les reins de son aïeul lorsque Melchisédek se porta à sa rencontre. Ça, c'est de l'exégèse rabbinique, au sens tout à fait strict. Si donc la perfection était réalisée par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin y avait-il encore que se présenta un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédek? Est-ce que le sacerdoce lévitique n'était pas suffisant? Et qu'il ne fut pas dit selon l'ordre d'Aaron? En effet, changer le sacerdoce, nécessairement se produit aussi un changement de loi. L'institution devient différente. Car celui dont ces choses sont dites appartenait à une autre tribu, dont aucun membre ne s'est jamais occupé du service de l'autel. Il est notoire, en effet, que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit quand il prête des prêtres. dans le psaume 110, le Messie était considéré comme grand prêtre par sa qualité royale. Et ici, il reprend la figure de Melchisédek. Pas toujours aisé, de retrouver un fil. Et c'est pourquoi il faut pouvoir aller de droite à gauche, de l'ancien au nouveau et de nouveau à l'ancien. Et alors nous arrivons à un passage important. Oui.
Ce psaume, Jésus lui-même le reprend dans une controverse en Matthieu.
Ah, tout à fait. Ah, tout à fait.
Et c'est, on peut dire que c'est dans la même ligne. Du raisonnement rabbinique.
Oui, mais c'est pour montrer qu'il est bien le Messie. Quand il dit, on lui demande de quelle autorité fait tout ça, alors il pose la question de comment David, dit-il, appelle-t-il son arrière petit-fils, son Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Comment se fait-il qu'il l'appelle son Seigneur? S'il l'appelle son Seigneur, qu'il est plus grand que lui. S'il est plus grand qu'un roi, qui est-il? Roi, grand prêtre, qui est-il? Et Jésus dit, voilà, c'est une énigme. Reconnaissez-moi ou ne me reconnaissez pas, ça c'est à vous. Tout à fait. Alors, attention maintenant, Abraham n'est pas un homme parfait. Il attend un enfant. Cet enfant ne vient pas. Donc, on va le fabriquer. Vous voyez la tentation. Toujours la même. Le désir. Désir d'avoir un enfant. Il faut quand même le réaliser, non? Voilà, la convoitise est en route. Au lieu de recevoir, je prends. Après ces événements, comme s'il n'y avait pas de lien, là. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Vous savez, quand on aime bien quelqu'un, on pense à lui, on lui parle, on le prie éventuellement, on pense à lui, on en rêve, normal, c'est pas ça plus, dans toutes nos relations. Eh bien, le Seigneur, la parole du Seigneur, adressé à Abraham dans une ville. On ne dit pas ce qu'il a vu. Il a vu une parole. Ça arrive.
Dans l'Apocalypse.
Mais oui. Ne crains pas, Abraham. Ah, ne crains pas. L'indicatif de Dieu à travers toute la vie. Il vient de se bagarrer, il vient de faire la guerre. Je suis ton bouclier. On peut comprendre, Je suis ton bouclier, ton magen, ta protection. Ta récompense, ta solde, plus que récompense, ta solde sera très grande. Si ton bouclier, ta solde sera très grande. Il n'a rien demandé, il n'a rien pris, il n'a rien voulu. Il n'a accepté que la bénédiction.
Mais il a payé 10%.
Et même il a payé 10%. Plus, en prime. Ta récompense sera très grande. Ta solde sera très grande. Nous pensons généralement que la récompense est quelque chose en plus. Dans la Bible, la récompense peut être envisagée comme cela d'abord, mais la plupart du temps, la récompense est d'avoir fait ce qu'il fallait faire. J'ai bien agi, j'ai ma récompense. C'est-à-dire, je suis entré dans un chemin de promesse. C'est ça une récompense. Entrer dans un chemin de promesse, c'est-à-dire, je suis entré dans une voie qui va s'ouvrir, qui va se prolonger. Ben là, nous prenons souvent récompense comme donnant. Tu as bien travaillé, tu auras ceci ou cela. Tu auras ton ordinateur, tu as bien travaillé. Ça va. Non, c'est pas ça la récompense. Tu as bien travaillé, c'est bien, t'es bien parti. Voilà, ça c'est la récompense. Bien parti, mon ami. Bénédiction, qu'est-ce que vous voulez de plus? Abraham répondit, il sait ce qu'il veut, Mon Seigneur, Yahvé, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Très bien, tout est cadeau, mais celui que je désire, c'est celui-là, un gosse. Que me donnerais-tu? Je m'en vais sans offre. Et puis, la phrase continue, et le fils de ma maison, c'est Damas Eliezer. On a mis trois petits points ici parce que c'est vrai que le texte est corrompu. Qui est ce Damas Eliezer? Cet Eliezer de Damas, c'est probablement un esclave qui est devenu adopté. Qui a été adopté par la famille. Ça, c'est une institution qui existait, l'adoption. C'est pour ça que Sarai peut avoir été une fille adoptive que Abraham a connue et qu'il a épousée. Peut-être comme ça aussi. Mais dans ce cas-là, elle serait sa demi-sœur. C'est ce qui est dit au chapitre 9. Mon Seigneur, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Et le fils de la maison, quelque chose comme ça, c'est Damas Eliezer, ou Eliezer de Damas. Donc probablement, si cet esclave a été adopté, il devenait éventuellement héritier. Hein? J'ai pas d'enfant, et maintenant, ma fortune, mes biens vont passer à mon serviteur. Abraham dit, voici que tu ne m'as pas donné de descendant, et qu'un des gens de ma maison, ouais, c'est une sorte de doublé, héritera de moi, un des gens de ma maison. Alors cette parole du Seigneur lui fut adressée. Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Ça c'est l'impossible, hein. Il le conduisit dehors et lui dit, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles, si tu peux les dénombrer. As-tu compté les étoiles, hein? Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham crut dans le Seigneur, qui le lui compta comme justice. Phrase qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a invité Paul lui-même à écrire. Abraham crut dans le Seigneur, qui le lui compta comme justice. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a là un acte de foi, non pas en quelque chose, mais en celui qui promet. Ça fait la différence. Et il nous enseigne quelque chose d'important ici. Parce que je peux avoir foi dans l'ordinateur que je vais recevoir, ou je peux avoir foi dans celui qui éventuellement me le donnera. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein? Foi dans l'ordinateur, c'est une foi qui est en moi finalement, en mon désir sur lequel je mets la main, mais foi dans celui qui promet, je me déprends de moi-même. C'est à l'autre que je fais confiance. Et là, je n'ai plus aucune certitude que sa parole. Dénombre les étoiles si tu peux. Ouais, on voit Abraham là qui, le soir, s'étend sur le sol en regardant les étoiles. Il dit, je voudrais quand même avoir beaucoup d'enfants. Autant que ça, il fait confiance à ce désir qui est en lui, comme une promesse. Il lui dit, je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Il parle de descendance, de postérité, et puis il parle de pays de nouveau. Abraham répond, mon Seigneur, à quoi saurais-je que je le posséderais? Prenez ça comme vous voulez, à quoi saurais-je que je le posséderais? Vous pouvez prendre cela comme une mainmise ou comme une question. La tradition juive et la tradition chrétienne l'ont pris comme l'un et comme pour l'un et pour l'autre. Et lui dit, va, Il va me chercher une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, un taureau et un pigeonneau. Certains traduisent une tourterelle et un pigeonneau.
Une fameuse différence.
Oui, mais le mot est le même en hébreu. Tor. Tor, tout, c'est le même. Il lui amena tous ses animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Sans doute une ancienne coutume pour faire un traité avec quelqu'un. On coupait les victimes en deux et on n'est pas tout à fait au clair de la signification de cette découpe des animaux en deux. On pense qu'on les mettait sur deux autels en vis-à-vis, les parties coupées des animaux, et les contractants passaient au milieu des deux, signifiant par là que s'ils contrevenaient à l'alliance ou au traité, bien ils acceptaient de subir le même sort, c'est-à-dire d'être coupés en deux. Possible. En tout cas, en hébreu, on dit karat berit. Couper un traité, couper une alliance, et qui vient probablement d'ici. Il lui dit, va me chercher une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau, traduisons comme cela. Il lui amena tous ses animaux, les partagea par le milieu, et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Cependant, il ne partagea pas l'oiseau, dit le texte hébraïque, c'est pour ça qu'on pense qu'il n'y en a qu'un. Le texte ici a mis au pluriel les oiseaux. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Donc il y a un sacrifice qui a tout lieu d'être une alliance, dont Dieu a l'initiative, puisque c'est lui qui dit comment il faut faire. Et il y a cependant des ennemis, des prédateurs. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Et il y a une victoire sur les prédateurs. Comme le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'un effroi le saisit. Et c'est le même mot, c'est le même effroi qu'au moment de la création d'Ève. Il y a une torpeur sur Adam et il se passe quelque chose entre temps. Et voilà que quand il se réveille, Adam voit la femme et s'extasie. Le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abraham. C'est-à-dire qu'il y a une réalité que l'homme ne peut pas sonder. C'est une réalité qui vient de Dieu. Et voici qu'un effroi le saisit. Il y a comme une menace de mort qui est symbolisée par ce sommeil. Le Seigneur dit à Abraham, sache bien que tes descendants, seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ben, il y est déjà allé, hein, Abraham, puisqu'il est allé en Égypte. Sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Bon, c'est un texte qui vient probablement d'après, hein, c'est sûr. Puisque tous les textes quand même ont été composés après l'exil, même s'il y a des sources anciennes. Mais je jugerai aussi le peuple auquel ils auront été asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Voyez ? Sortiront avec de grands biens comme Abraham était sorti avec de grands biens. On montre une continuité, une récurrence des thèmes dans l'histoire. Mais ici, tout est proposé comme un avenir. Pour toi, tu t'en iras au paix, en paix auprès de tes pères. Et tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. C'est à la quatrième génération qu'ils reviendront ici, car l'iniquité des Amorites n'est pas encore à son comble. Quelle histoire étrange! Donc, ils seront esclaves, mais Dieu va rétablir la situation en châtiant ceux qui les ont opprimés. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi le peuple auquel ils auront été asservis, et ils sortiront avec de grands biens. Ils en sortiront, mais aussi avec de grands biens. Donc on va en quelque sorte exploiter de nouveau l'Égypte. Pour toi, tu t'en iras en paix auprès de tes pères, tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. Toi, tu auras ton sort, ton destin est assuré. Mais à la quatrième génération, ceux qui sont partis en Égypte reviendront ici, car l'iniquité des Amorites n'est pas encore à son comble. Cette idée de comble est une idée étrange qui revient souvent dans la Bible. L'iniquité est à son comble. Qu'est-ce que cela signifie? On dirait que Dieu laisse faire les hommes. Il les a fait libres, il faut bien qu'ils travaillent avec leur liberté. Et donc il n'intervient pas. C'est le temps de la patience de Dieu. Et puis tout d'un coup, quand l'iniquité a atteint son comble, Dieu intervient. C'est une idée étrange. Comme si le mal que les hommes peuvent faire devait atteindre un maximum indépassable pour que Dieu se mette à travailler. On a réfléchi de différentes manières sur ce thème du comble, de l'iniquité. Certains soulignent, et je crois que c'est vrai aussi, ça apparaît dans le thème, certains soulignent que l'homme peut faire le mal, mais il ne peut jamais faire tout le mal possible. Ça atteint toujours une limite. Comme l'homme est limité, il n'a pas puissance absolue sur le mal. Et je crois que cela est présent aussi dans ce thème. Vous l'avez surtout, ce thème est repris dans ce sens-là, dans l'Apocalypse.
Le tiers des étoiles tombe sur terre.
La tiers qui tombe. Ou bien un temps, deux temps et un demi-temps. Trois et demi.
Mais c'est aussi une expérience psychologique personnelle qu'on peut faire. Il faut dégringoler assez bas pour se ressaisir aussi.
C'est ça. C'est ça. Ou une colère qui atteint son comble tombe, tout d'un coup. On a atteint le paroxysme, hein, le maximum, ça tombe. Mais que Dieu attende que le mal soit à son comble pour intervenir, c'est une idée étrange. Où Dieu intervient-il à ce moment-là? Dans l'homme, évidemment. On dirait par exemple... Et là, ce n'est pas question d'iniquité, mais c'est quand même la même histoire de comble. Dieu reste silencieux pendant le 38 chapitre du livre de Job, par exemple, et ce n'est qu'à la fin, alors qu'on ne l'espérait plus, que Dieu intervient. Je dis bien alors qu'on ne l'espérait plus. Dieu a toujours quelque chose d'inattendu. On l'attend, il ne vient pas. On n'attend plus, il vient. Comme s'il attendait qu'on ne l'attende plus là. C'est lui qui attend. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce rapport que nous pouvons avoir avec Dieu, à ce respect extraordinaire qu'il a de notre liberté. Et on dirait qu'il ne donne le coup de pouce à l'intérieur même de notre liberté que comme un sursaut de cette liberté. On attend toujours de l'extérieur. On attend qu'il intervienne. Fais ceci, fais cela. Baguette magique. Et Dieu dit non. Je n'agirai que dans ton intérieur, avec ta connivence, dans le profond de ton être.
Nous lui disons souvent, mais fais-le, mais fais quelque chose.
Mais je fais quelque chose, je t'attends.
Il y a une tendresse, une douceur extraordinaire dans cette sorte de respect que Dieu a pour nous.
Mais le récit qu'on a lu au bréviaire ces derniers jours, là, avec Gédéon et sa toison, il exagère un peu, hein, il demande oui. les deux épreuves contraires.
C'est ça.
Au fond, c'est un fond archaïque humain qui est...
C'est un fond archaïque, mais finalement, ce qui est le plus profond dans le désir de l'homme, c'est vraiment, Dieu peut le réaliser parce qu'il est dans ce désir. Sainte Thérèse qui veut de la neige à sa profession, bon, elle l'a. C'est-à-dire, nous faisons confiance totalement. Nous le désirons en faisant confiance. Or, généralement, nous désirons en voulant avoir. Mais désirer, c'est lâcher son désir, finalement. C'est le lâcher comme son désir. Et découvrir qu'il est encore plus le désir de Dieu que le mien. Il y a quelque chose de très beau hein, dans le Cantique des Cantiques. Hein. Vous avez trois refrains qui sont redits à différents moments. La première fois, c'est Dodili va Anilo. Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Mon bien-aimé est à moi. Et je suis à lui, hein, attention. Hein? Il y a une relation. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui.